On va s'enfoncer sous la terre. On va visiter un vestige de la Seconde Guerre mondiale à Brest en compagnie de Jean Causeur. Vous nous faites découvrir l'abri Sadi Carnot.
Tout à fait, Hervé Hérault. J'ai rencontré, il n'y a pas si longtemps que ça, Christine Berthoud-Ballot, animatrice de l'architecture et du patrimoine de Brest, qui m'a présenté le lieu, tandis que Pierre Souchard, membre de l'association Mère 29, Mère pour Mémoire de l'Exil Républicain, se chargeait de me présenter les personnes qui ont construit ces infrastructures pendant la guerre. L'exposition présentée dans cette interview a malheureusement pris fin durant ses vacances, mais voici quelques explications qui ne manqueront pas d'attiser votre curiosité.
Alors, nous sommes donc dans l'abri Sadi Carnot. C'est un abri de la Seconde Guerre mondiale qui permettait de protéger la population civile pendant toute la période des bombardements que Brest a subi de 1941 à 1944. C'est un abri qui a une histoire tragique, puisque dans la nuit du 8 au 9 septembre 1944, une explosion a détruit l'abri et donc évidemment fait beaucoup de victimes de la population civile pendant cette explosion. On n'en a pas forcément toutes les tenants et les aboutissants. On ne sait pas bien pourquoi. On pense que c'est une dispute qui a commencé avec des soldats allemands. Alors, puisque en fait, à l'époque, contre toutes les conventions, l'abri avait été scindé en deux, hein, une partie civile et une partie pour les Allemands, ce qui n'était pas du tout conforme. Et on était aussi donc le 8 au 9 septembre, on était 10 jours avant la libération de la ville, donc il fallait que toutes les forces armées soient sur le front, et donc une dispute a dû se passer. Il y avait des munitions, ce qui était aussi interdit, et donc ça a explosé, ça a fait un souffle de bazooka, comme un bazooka, un lance-flamme en fait, et ça a asphyxié et tué les civils qui étaient à l'intérieur. Très très peu ont pu s'en échapper, puisqu'on descendait et on remontait de l'abri par 154 marches, les portes ne sont pas non plus ouvertes dans le bon sens, donc beaucoup sont restés piégés dans l'intérieur, donc très peu s'en sont sortis. C'était en plus en pleine nuit, les gens ne sont pas bien rendus compte de ce qui se passait, voilà. Donc c'est un lieu assez tragique pour ça, c'est un lieu qui a été scénographié depuis 2009 par la ville de Brest pour expliquer comment vivait la population civile pendant cette période d'occupation, montrer un peu toutes les difficultés auxquelles elles étaient confrontées, aussi bien dans leurs déplacements que dans leur vie quotidienne, du rationnement, de faire la queue pour aller trouver à manger. Voilà, donc c'est toutes ces... comment on se protège aussi pendant ces périodes-là. C'est aussi pour ça qu'on a scénographié cet abri. Cet abri est visitable, bien sûr. Il peut se faire soit en visite autonome avec les panneaux qu'on a mis dans l'abri. On peut aussi le faire avec un audio guide qui amène, outre des informations historiques, aussi des témoignages de personnes qui ont vécu cette période-là, qui ont été aussi dans l'abri. Qui apporte un plus sur la visite une émotion aussi, hein, de plus. Et puis, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'on a réparti en deux, en fait, deux parties la visite. C'est-à-dire que quand on arrive dans l'abri, eh bien, on a ces informations, sur la vie à l'époque, les difficultés rencontrées par la population civile. Et puis, dans une deuxième partie, on a un endroit plus mémoriel, si vous voulez, où on a laissé l'espace au plus près de ce que les gens ont connu à l'époque. On a travaillé ça avec des témoins qui nous ont aidés à retrouver cette ambiance. Donc, on est plus dans une partie mémorielle. Hein, voilà. Et puis, les gens ont accès aussi à un film qui remet en contexte du pourquoi on crée ces abris, pourquoi Brest est une ville ville stratégique, une cible stratégique, et pourquoi elle a été si détruite et a été la cible de, à la fois des destructions allemandes et des raids alliés, et pourquoi on a eu autant de bombes à nous tomber sur la figure, quoi. Voilà.
Donc la première question qui m'est venue, on parle souvent de l'abri Sardi-Carnot, mais est-ce qu'il y avait d'autres abris anti-bombardement ? Est-ce qu'il y en a toujours qui sont à Brest ? Parce qu'on parle surtout de celui-là, mais est-ce qu'il en existe d'autres ?
Alors, c'est vrai que cet abri, c'est le seul qu'on peut visiter, hein, qui est visitable donc, sur Brest. Mais bien entendu, il y en avait d'autres. Il y en avait un autre sous la place Wilson, en fait, qui partait de la place Wilson et qui descendait jusqu'à Dialogue, là. Et puis, donc, qui était aussi pour la population civile, qui a été, lui, réquisitionné en totalité par les Allemands au moment du siège de la ville du 7 août 44 à sa libération le 19 septembre. Et puis, on avait aussi dans les communes environnantes, qui aujourd'hui sont des quartiers. Donc, il y en avait un à Lambézélec à la brasserie, il y en avait un ou deux sur Saint-Pierre, place Joseph-Gouez, il y en avait à Saint-Marc. Il y avait un abri hôpital également sur Saint-Marc, l'abri Ponchelet, qui était un abri hôpital. Voilà, mais les gens en fait ont commencé par se protéger en creusant des tranchées ou en étant dans leurs caves, mais très vite ça n'a pas suffi et donc il a fallu qu'on construise ces abris à partir de 42-43 pour que la population soit véritablement à l'abri.
Alors on va passer à la deuxième partie de notre interview. Alors on va parler des travailleurs forcés espagnols, si j'ai bien compris. Est-ce que tu peux les présenter et dire déjà, pourquoi il y a des travailleurs forcés espagnols à Brest ?
Justement, comme disait Christine, Brest était une ville stratégique à cause de son port. Et Hitler a très vite compris ce point stratégique parce qu'on est le plus proche de l'Angleterre et des bateaux alliés qui y arrivaient. Et donc, de 1941, il a décidé de construire une base sous-marine à Brest qui fait partie du mur de l'Atlantique. Et donc, il y en a à Saint-Nazaire, à Lorient, à Bordeaux, et j'en oublie sûrement. Et donc, pour construire cette base, il avait besoin de main-d'œuvre, et surtout une main-d'œuvre pas chère. Et après la guerre d'Espagne, des républicains espagnols ont fui suite à la défaite et ont été campés dans des camps de réfugiés ou de camps de concentration aussi, dans le sud de la France. Et ils ont intégré ce qu'on appelait d'abord des groupements de travailleurs étrangers et qui se sont transformés après la défaite de la France à la drôle de guerre en CTE, Compagnie de Travailleurs Étrangers. Et il y a eu un accord entre Pétain et Hitler pour récupérer cette main-d'œuvre pour construire le mur de l'Atlantique. Donc ces républicains espagnols se sont retrouvés dans le Finistère comme travailleurs forcés sous la tutelle de l'organisation TOD, qui est donc le bras armé de Hitler pour construire, le génie civil. Et ils ont été au nombre de 4000, dans les chiffres dont on connaît nous, à construire la base sous-marine, pour construire la base sous-marine de Brest.
Et on parlait de combien de réfugiés à l'origine qui étaient parqués dans le sud ?
Je crois qu'il y en a 70 000 ou 100 000 ou 200 000. Le chiffre exact, je ne le connais pas moi parce que je suis très neuf dans l'histoire de ce mouvement. Mais il y en a eu beaucoup. Au début, c'était des civils, des 37. C'était des civils qui sont aussi arrivés dans le Finistère. Mais là, c'est plus dans un élan de solidarité. Et en 39, c'est la grande débandade, ce qu'on appelle la retirada. Et ils sont partis par le nord, par la Catalogne, et ils sont arrivés dans le sud de la France. Mais je crois que c'est dans l'environ de 200 000 personnes. Certains sont retournés en Espagne parce que leur terre leur manquait. D'autres sont restés en France. Beaucoup ont aussi participé à la résistance. Et d'autres ont été obligés, contraints et forcés de venir travailler dans les différents camps.
Pourquoi faire cette exposition là maintenant ? Est-ce qu'il y a eu une demande, par exemple, avec des gens qui ont travaillé ici, des Espagnols qui ont demandé « ça serait bien qu'on fasse une exposition sur nous » ou alors c'est des gens qui se sont dit « mais c'est vrai qu'ils ont existé et qu'ils étaient présents ».
Alors depuis 2012, il y a une association, donc Mère 29, qui existe, Mémoire de l'exil républicain espagnol, et c'est des fils d'eux, ces républicains espagnols qui sont restés ici, qui ont rencontré des femmes pour la plupart, parce que la plupart c'était des hommes, et donc ces fils qui ont aujourd'hui 70 ans, 75 ans, et ils sont attelés depuis 2012 à reconstituer la mémoire de leur père. Et donc, cette exposition aurait dû venir à Brest en 2021, puisqu'on fêtait les 80 ans du début de la construction de la base. Mais pandémie est passée par là. Et donc, du coup, on l'a fait ici, aujourd'hui, à Brest. Donc, cette exposition qu'on expose à l'Abrissa di Carnot, grâce à la ville, et on les remercie amplement, est très importante pour ces fils et filles de républicains espagnols, parce qu'elle retrace exactement le travail forcé. C'est une exposition qui est consacrée principalement au travail forcé des Rotspanniers, qui étaient comment les Allemands les appelaient, les Espagnols rouges. D'accord. Donc ça retrace justement le résumé, le condensé que je viens de faire, de leur arrivée en France jusqu'à leur arrivée dans les différentes bases de sous-marins. Et donc cette association œuvre pour que cette mémoire soit reconnue, connue et de tous les gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas que c'était des Espagnols, pour la plupart, parce qu'il y avait aussi des Juifs, des Polonais et d'autres nationalités qui ont construit, mais le grand contingent, c'était des Espagnols républicains espagnols.
Est-ce que vous avez aussi, puisqu'on parlait de témoignages audio, est-ce que vous en avez aussi pour cette exposition ?
Alors, il y a effectivement un film qui est présenté, qui dure 10 minutes, mais qui fait plus référence aux indemnisations des Espagnols par l'Allemagne. Au fait, beaucoup de Juifs ont été indemnisés, beaucoup de personnes ont été indemnisées, mais le travail forcé n'a pas été considéré dans un premier temps comme digne d'indemnisation. Et des Espagnols se sont rassemblés il y a une dizaine d'années, même un peu plus, et ils ont été reconnus comme victimes du nazisme qu'en 2000.
Voilà. Et vous allez sur le site internet de la ville de Brest pour avoir toutes les informations pratiques sur les modalités de visite de l'Abrissa di Carnot. C'est ainsi que se termine le LEM. Merci de l'avoir suivi.